Alors, on va se tourner vers la parole de Dieu ensemble ce matin. On est dans la série sur les 10 commandements, comme ça a été mentionné. Et on va écouter ensemble la parole de Dieu, alors qu'on arrive sur un commandement qui est pas très à la mode, pas très à la mode aujourd'hui. On va écouter Joël nous lire la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre d'Exode, au chapitre 20, versets 1 à 14, édition Louis II. Exode 20, 1 à 14. Extrait des 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui me gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel te laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère.
Merci, Joël. Denis Arcand vient de sortir son dernier film. Le règne de la beauté. Ce matin, je ne vais pas faire la promotion de ce film-là, tout simplement parce que, excusez-moi le terme, mais c'est de la pornographie. Mais Denis Arcand a sorti son dernier film, Le règne de la beauté. Voici ce qu'on peut trouver sur le site web Film Québec pour nous présenter un peu ce film-là. Le règne de la beauté est la classique histoire d'adultère d'un couple tout ce qu'il y a de plus enviable. Ailleurs, sur Internet, on va lire cette description. Luc, un jeune et brillant architecte, dont le talent n'est pas encore reconnu, mène une vie paisible avec sa femme Stéphanie, monitrice de sport dans la merveilleuse région de Charlevoix. Belle maison, belle femme, des amis fidèles. La chasse, le ski, une vie parfaite, dirait-on. Invité à siéger sur un comité d'architecture à Toronto, il rencontre Lindsay, une femme mystérieuse qui bouleversera sa vie. Mais ce matin, parce qu'on est un petit peu old-fashioned ici à l'Église de l'Espoir, on va parler d'adultère. J'ai 3 mises en garde à vous donner avant de me lancer dans ce sujet-là. Première mise en garde, parental guidance, s'il vous plaît. On est dans un sujet, évidemment, je vais dire des choses, je vais essayer de rester très dans la bienséance, mais je tiens à vous le dire, les parents, peut-être que vous allez m'entendre dire certaines choses que vous préféreriez, que vos enfants n'entendent pas. En même temps, je n'ai pas beaucoup d'illusions. Si vous avez acheté un iPod à vos enfants, j'espère que vous n'en avez plus non plus, d'accord? Et que vous travaillez à les instruire, à les éduquer. Deuxième mise en garde. Il n'y a pas grand monde ici ce matin qui ne sera pas soit troublé, soit choqué, soit bouleversé à travers ce qu'on va dire. Certains d'entre vous allez vous sentir coupables. J'apporte ce message avec un cœur, je l'espère, c'est ma prière, un cœur de berger, d'accord? Un cœur de celui qui est là pour prendre soin de l'Église de Christ avec les autres anciens ici dans l'Église. Mais je tiens à vous le dire, certains d'entre vous allez sortir d'ici profondément troublés, d'autres vont être offensés par mon propos, vont être choqués par ça. Et je vous apporte la parole de Dieu, d'accord, ce matin. Alors, ce matin, on va voir ensemble que le mariage est l'une des plus belles idées de Dieu pour illustrer son amour pour nous et nous amener à le refléter. Je répète ça, le mariage est l'une des plus belles idées de Dieu pour illustrer son amour pour nous et nous amener à le refléter. Et ma troisième mise en garde est la suivante. Le mariage, c'est une institution divine, mais ce n'est pas la seule belle idée de Dieu, idée qui est sortie du cœur de Dieu pour nous illustrer l'amour de Dieu. L'Église en est une superbe aussi. Et j'oserais dire que l'Église est plus grande encore que le mariage pour illustrer l'amour de Dieu et nous faire connaître l'amour de Dieu. Dans un certain sens, le mariage, nos mariages sur terre, ne sont que des illustrations, des images de l'Église, de l'union entre Jésus-Christ et son Église. Église qui veut simplement dire assemblée, d'accord? L'assemblée de tous ceux qui se sont mariés avec Jésus-Christ par la foi, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et donc, nos mariages sur terre sont temporaires. Mais l'Église, elle, est éternelle. Nos mariages prennent fin à la mort, l'Église demeure à jamais et l'Église va célébrer son mariage avec Jésus-Christ aux noces de l'agneau, c'est ce que le livre de l'Apocalypse nous dit. Ma mise en garde est la suivante, d'accord? Ce matin, on va faire un message qui va parler du mariage. En réalité, le sujet, c'est l'adultère, parce qu'on adresse ce commandement-là. Tu ne commettras pas d'adultère. Et il y aurait énormément à dire. Plusieurs d'entre vous, vous allez rester sur votre faim. Vous allez me voir aller dans différentes directions, puis arrêter court, d'accord? Ce serait bien d'aller plus loin. J'espère, dans un avenir proche, voir avec vous le Cantique des Cantiques. Ce serait pas mal extraordinaire, n'est-ce pas? Et donc, j'espère pouvoir le faire avec vous dans un avenir proche. Mais d'un autre côté, là où je veux en venir, c'est que ce matin, pour certains d'entre vous, ce que vous allez entendre ce matin, c'est une éloge du mariage. Et certains d'entre vous, ça peut être difficile à écouter, difficile à entendre. Vous pourriez avoir l'impression que le mariage, c'est là que se trouve le secret du bonheur. Et certains d'entre vous languissez après ça ardemment. C'est légitime. Mais je veux dire quelque chose ce matin. Le mariage, c'est pas le secret du bonheur. Ce n'est pas le secret du bonheur. Vous demanderez à des gens mariés depuis quelques années. Je suis très heureux dans mon mariage, soit dit en passant. Mais le secret du bonheur se trouve en Dieu, ne se trouve pas dans le mariage. Et donc, certains d'entre vous languissez ardemment après le mariage. Vous attendez cet amour que vous allez rencontrer, avec qui vous allez consommer l'amour, vous allez passer votre vie avec. Et pour vous, c'est là que se trouve le summum du bonheur humain. Et si c'est ainsi que vous concevez le mariage, lorsque vous allez vous marier, vous allez vivre une profonde déception. Parce que vous avez fait du mariage et de votre futur conjoint, votre futur époux, votre future épouse, une idole. Une idole dans votre vie qui a été élevée à la place de Dieu. Et vous allez arriver là avec des attentes qui ne peuvent être comblées qu'en Dieu. Imaginez la pression quand tu te maries et tu dis à l'autre, inconsciemment, « Toi, tu vas être mon Dieu. » Tout ce que Dieu est censé assouvir en moi, le sens de ma vie, je vais le trouver dans notre union ensemble. Vous allez être déçus, les amis, je vous le dis. Le secret du bonheur ne se trouve pas dans le mariage, il se trouve en Dieu. Alors, je vais résumer ça comme ça, d'accord? Dieu aime tous les hommes et toutes les femmes de la terre. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Mais la parole de Dieu ne dit pas que Dieu veut que tous soient mariés. Dieu veut que tous soient sauvés, pas nécessairement que tous soient mariés. Le mariage est l'une des plus belles idées de Dieu pour nous faire connaître son amour, nous faire expérimenter son amour. À mon avis, ce n'est pas la plus belle, parce que c'est simplement une métaphore, une image du véritable mariage qui est le mariage de l'Église avec Jésus-Christ. Et selon moi, l'Église est encore une plus belle métaphore que le mariage. Induisez pas de ça que je suis malheureux dans mon mariage. Je suis vraiment heureux là. Alors, commençons par le début. Le mariage. On va mettre un fondement, d'accord? J'ai juste une phrase. Tu ne commettras pas l'adultère. Je vous explique l'adultère, puis on s'en va. Non, il y a un contexte à ça. J'étais là, puis j'étais en train de me battre avec tout ce qu'il y a à dire sur le sujet, vous comprenez? Alors, commençons par le début. Le mariage est une alliance. Est une alliance entre un homme et une femme. C'est une alliance qui a été conçue par Dieu. La première chose à savoir sur le mariage, pour ensuite pouvoir comprendre l'adultère, c'est que le mariage a été conçu par Dieu. C'est dans l'idée de Dieu. La semaine dernière, on a vu ensemble le commandement « Tu ne tueras point ». Et j'ai commencé cela en disant, la vie a un sens. La vie humaine en particulier a un sens. Où trouve-t-elle son sens? Elle le trouve dans son Créateur. C'est Dieu qui nous a créé notre vie à un sens. Le mariage a un sens. Parce que c'est pas une invention humaine. C'est pas une manière qu'on s'est organisé pour fonctionner en société. Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a dit, ils seront une seule chair. Dieu a conçu le mariage. Et donc, le mariage a un sens parce qu'il vient de l'Esprit de Dieu. Il vient de la pensée de Dieu. C'est Dieu qui a conçu le mariage. Le mariage est sacré comme la vie est sacrée. Parce qu'ils ont tous deux pour auteur Dieu qui l'a conçu, qui l'a imaginé. Et donc, on trouve au tout début de la Bible, dans Genèse 2, 24, cette phrase super importante qui nous aide à comprendre ce qu'est le mariage. C'est là que Dieu nous dit, voici le mariage. Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair. Voilà le mariage. Le mariage, c'est une alliance entre un homme et une femme à la vie et à la mort. C'est une alliance qui prend Dieu et les hommes à témoin. Il y aurait énormément à dire. On pourrait faire une série simplement sur la théologie du mariage. Il y aurait beaucoup à dire, d'accord? Et comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs d'entre vous, vous allez rester sur votre faim. Vous allez dire, oui, mais j'aimerais ça que Yannick développe ça. Je ne le ferai pas ce matin parce que le sujet, c'est vraiment la question de l'adultère. Et je suis en train de mettre ça dans son contexte, d'accord? Mais oui, ce que je viens de dire, c'est que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. C'est ce que les Écritures nous enseignent. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet de l'homosexualité. C'est un sujet super important. J'essaie pas de l'éviter, d'accord? C'est pas le propos ce matin. Les Écritures sont super claires sur le sujet. Et si vous avez besoin qu'on vous dirige vers des lectures pour étudier ça, ça va nous faire plaisir. C'est un sujet d'actualité. Certains d'entre vous dans cette salle, vivez avec des pulsions, des désirs qui vous portent vers quelqu'un du même sexe. D'accord? Et je ne suis pas en train de passer à côté de ça, simplement. Mais comme je vous dis, je pourrais aller dans beaucoup, beaucoup de directions. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme à la vie, à la mort. C'est une alliance qui prend Dieu et les hommes à témoin. Ainsi, le mariage a un sens. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alors, je vais juste faire un commentaire ici, d'accord? On vit à une époque où la compréhension du sacré est en train de disparaître, ou sinon, si elle est présente, c'est celle que je veux bien imaginer, comme moi je veux la concevoir. Et donc, ce qui va être sacré, c'est la vie, c'est la vie tout court, puis c'est ce que je veux faire de ma vie, puis ça, c'est sacré. Mais généralement, ce qu'on voit de plus en plus, c'est une tendance à considérer, à regarder l'être humain, l'homme, la femme, essentiellement comme des animaux. D'accord? Avec la pensée qu'on est simplement le fruit de l'évolution, c'est tout, que Dieu n'est pas là derrière la création de l'homme, de tout cet univers. On voit l'être humain de plus en plus simplement comme un animal. Nous ne sommes pas des bêtes. Et donc, lorsqu'on veut découvrir ce qu'est l'amour, lorsqu'on veut découvrir ce qu'est l'amour entre un homme et une femme, on n'est pas appelé à se comporter comme des animaux en rute qui arrivent à la période de l'accouplement et qui vont à la chasse. La pornographie produit exactement ce genre de comportement-là. Où tout simplement, tu vas à la chasse, t'étends ton territoire, mon homme. Nous ne sommes pas des bêtes. Et on n'est pas appelé à se promener puis à chercher avec qui est-ce que je peux m'accoupler parce que là, ça me tente puis ça me démange. On n'est pas des bêtes. Ainsi, les chrétiens se marient pour la vie. Ça ne cote pas ensemble, on ne vit pas en concubinage, parce qu'on fait une alliance. La sexualité, on la garde pour cette alliance-là. Lorsque j'ai promis à Esther, tu seras mienne et je serai tien. À jamais. À jamais. Je vais être fidèle, je vais me garder pour toi. Et alors, je lui offre mon corps. Elle m'a offert le sien. Nous ne sommes pas des bêtes. Et cette tendance profonde dans notre société qui veut voir l'homme simplement comme un être animal va avoir beaucoup de conséquences. Déjà, on en voit beaucoup apparaître, ça va continuer. Ça va être difficile de donner un sens à la famille, de donner un sens à l'union entre un homme et une femme. Il va falloir recréer, réimaginer ces sens-là, mais toujours en allant chercher simplement dans cette vision matérielle. C'est difficile de comprendre pourquoi pas se suicider. C'est difficile de comprendre pourquoi être fidèle. C'est difficile de comprendre pourquoi se donner lorsque je vais simplement aller me nourrir dans la nature avec une vision très matérialiste, très animale de l'être humain. C'est au plus fort la poche, c'est là que ça finit. Parce que c'est ça la loi de la nature. Mais nous ne sommes pas des bêtes et c'est pas comme ça que la parole de Dieu nous enseigne l'amour. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme qui a été donné, qui a été pensé par Dieu pour nous conduire à expérimenter et à refléter l'amour de Dieu. C'est à ça que ça sert le mariage. On tire du bonheur parce que dans l'union, je vais expérimenter l'amour de Dieu. Mais mon union avec Esther sert de message pour Esther, pour moi, pour nos enfants, pour les gens autour de nous. Ça sert à expérimenter et à refléter l'amour de Dieu. Ce matin, je vais troubler des gens, entre autres, parce que vous allez dire, Yannick, tout ce que tu m'as dit sur le mariage, c'est pas ça que j'expérimente. Et donc, certains d'entre vous vivez des expériences de mariage difficiles. Et je vais pas vous donner toutes les réponses ce matin pour savoir comment construire, bien que je vais chercher à être pratique à la fin du message ce matin, mais je vais pas vous donner toutes les réponses. Je suis là pour dire ce matin que le mariage a un sens. Et c'est parce que le mariage a un sens que l'adultère est inacceptable. Je suis là pour cadrer comme il faut votre théologie de l'amour, votre théologie de l'amour humain, votre théologie du mariage, de l'union entre un homme et une femme. Et c'est ça que je fais ici ce matin, d'accord? Un autre passage ce matin pour aller un petit peu plus loin dans... Toujours dans Genèse, chapitre 1, versets 25 à 27, vont être affichés à l'avant. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Maintenant, là où je veux attirer votre attention, c'est qu'on a un premier indice, c'est pas le premier, c'est le deuxième indice dans les Écritures de cette idée de la Trinité. Encore une fois, je ne vais pas aller là-dedans, mais on apprend dans les Saintes Écritures que Dieu est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a quelque chose de mystérieux là. Et on a un indice là à cause de ce pluriel qui est là. Puis Dieu dit « faisons ». C'est un pluriel de personnes. Ce n'est pas Dieu qui est en train de parler comme un roi, qui dit « nous mangerons ce soir ». Ce n'est pas ça qu'on a ici. D'accord? Il y a plusieurs personnes qui sont là, puis c'est Dieu qui est singulier, pluriel. Je n'irai pas plus loin que ça. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme à son image, Dieu a créé l'être humain relationnel. Et une fois qu'il a créé l'homme, il a dit, « Ben, je ne vais pas te faire juste des bodies de pêche, mon chum. Je vais te faire une épouse et vous allez vivre une union ensemble qui va ressembler à quelque part à ce qu'il y a en Dieu, à cette union parfaite qu'il y a dans la Sainte Trinité. » Dans cette harmonie qu'il y a là, dans cette jonction-là, cette rencontre-là, cet amour qui est là. On a eu un super bon conférencier à cela en 2013. Tim Savage donnait un cours cette semaine. Un des meilleurs livres que vous pouvez lire, juste en anglais pour l'instant, sur le mariage, « No Ordinary Marriage » de Tim Savage. Je vais juste vous lire une petite citation de Tim sur ça. Mari et femme, ensemble, reflétant Dieu et reproduisant dans leur relation le même amour qui caractérise la Trinité. C'est un amour qui se donne entièrement l'un pour l'autre. Le mariage pourrait difficilement être plus riche de sens. Mari et femme qui reflètent ensemble la gloire de l'amour de Dieu. Et donc, je crois, comme M. Savage, que mon mariage avec Esther, dans cette intimité qui est unique, parce que je vis de l'intimité avec plein d'autres êtres humains, mais pas celle-là. Celle-là est réservée là. Je crois que c'est là pour refléter cette relation qu'il y a au sein de la Sainte Trinité, cette intimité qui est là, parce que Dieu nous dit ici qu'ils deviendront une seule chair. 1 + 1, ça fait 1 ici. Ça fait 1 ici. Tant et si bien que si vous venez me voir puis vous dites « j'ai des problèmes, Yannick, dans ma vie, puis j'aimerais ça que quelqu'un me suive », il y a des bonnes chances que je vous dise « est-ce que tu es marié? » Oui, on va vous rencontrer les deux. J'ai besoin de ton épouse ou de ton époux pour pouvoir travailler avec toi. Parce que tu n'es plus un, vous êtes deux qui formez un maintenant. Alors, je crois que le mariage est là pour refléter cette relation et on doit s'inspirer de cette relation entre Christ et son Père dans les évangiles pour voir cette harmonie, cet amour qu'on veut avoir dans notre propre union. Mais définitivement, les Écritures sont encore beaucoup plus claires sur l'autre sens du mariage qui est celui de l'union entre Jésus-Christ et son épouse qui est l'Église. Et donc, on apprend dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. Dans Éphésiens 5, versets 31-32, il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, citant Genèse que j'ai lu tout à l'heure. Les deux deviendront une seule chair. » Et Paul continue en disant « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Et voyez-vous, nos mariages terrestres, mon union avec mon épouse, sont là pour être une illustration du mariage céleste qui nous attend tous et chacun. Notre mariage à Esther et moi va prendre fin lorsqu'un de nous deux va quitter cette terre. Mais le mariage éternel entre l'Église de Jésus-Christ et notre Seigneur, lui, va être éternel. Et donc, ce que je veux chercher à reproduire dans mon union avec Esther et dans son union avec moi, dans notre manière de vivre ensemble, c'est cette relation qu'il y a entre Jésus-Christ et son Église. Une fois que je comprends ces choses-là, l'adultère devient inconcevable. Parce que Dieu a dit dans sa parole, tu ne te feras pas d'autre Dieu, d'autre idole. Tu vas être seulement avec moi. Et Jésus-Christ veut son Église avec lui. Il veut parler à son cœur, l'aimer, et qu'il n'y ait pas d'idole dans son cœur. Mon mariage avec Esther est là pour refléter cette union entre Jésus-Christ et son Église. Cette union pure qui a coûté la vie de Christ. Ça, c'est le sens du mariage, les amis. On n'est pas des bêtes qui cherchons avec qui nous accoupler parce que j'ai fait le tour, je suis fatigué puis je veux passer à un autre. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu et nos unions, notre mariage, est un acte sacré, symbolique, qui parle de Dieu, qui parle de l'union entre Jésus-Christ et son Église. Par conséquent, lorsqu'on arrive à la sexualité est simplement une célébration de cet amour. La sexualité, l'intimité entre un homme et une femme devient une célébration de cette union entre Jésus-Christ et son Église, de cette intimité qu'il y a en Dieu. Littéralement, je crois personnellement, et lorsque Esther et moi, on va vraiment pour le mieux dans notre intimité, et vous savez quoi? Moi, je pense à Dieu lorsqu'on est ensemble, tous les deux intimes. Je pense à Dieu. De la même manière que je rends grâce avant un bon repas puis avant un bon steak, je rends grâce aussi. Et je célèbre la présence de Dieu qui est là, qui voit notre amour. J'avais dit que j'étais un peu PG un matin. Mais littéralement, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est comme ça que ça devrait se passer. Parce qu'au début, tous deux étaient nus dans le jardin. Il n'y en avait point honte. Et Dieu était là. Dieu était là. Et donc, la sexualité est une célébration de cette alliance. On lit dans le Cantique des Cantiques. Faites-vous-en pas, je suis resté dans le très, très léger du Cantique des Cantiques. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Vous n'avez pas besoin de chercher dans les monstruosités du monde et de la pornographie pour redonner un petit peu de piquant à votre intimité. Allez lire le Cantique des Cantiques ensemble. Philip Ryken, que j'ai déjà cité un peu plus tôt, en fait la semaine dernière, a dit ceci, « Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre le genre d'intimité sexuelle que le Saint-Esprit a à l'esprit. » Parce que voyez-vous, le Cantique des Cantiques a été inspiré par Dieu. C'est Dieu qui a inspiré des hommes à l'écrire. C'est ce que nous croyons, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc, le Saint-Esprit a conçu ce livre-là et il avait des choses très graphiques en tête puisque ce livre-là l'est énormément. Philip Ryken continue en disant, bien que la parole de Dieu ne soit jamais pornographique, elle est sans aucune gêne érotique. Parce que ça fait partie de l'union du mariage. C'est la célébration de cet amour-là. Alors, l'adultère. L'adultère vient briser cette alliance en allant la frapper droit au cœur. C'est ça que l'adultère vient faire. L'adultère vient attaquer cette intimité-là, droit au cœur, et vient briser cette alliance. Tu ne commettras point d'adultère. Quel est le jugement que Dieu prononce sur l'adultère? Écoutez, si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament, c'est le temps de boucher vos oreilles. Ou de les ouvrir. Dieu hait le meurtre. J'ai dit ça la semaine dernière. Dieu haït le meurtre profondément. Dieu haït l'adultère. Dieu haït l'adultère. Parce que tous les deux, le meurtre comme l'adultère, viennent attaquer l'être humain dans ce qu'il est, viennent dénaturer ce que nous sommes censés être et représenter. Cette image de Dieu que nous portons en nous et que nous reflétons par nos relations et par notre mariage. Dans l'Ancien Testament, l'adultère était puni de mort. Il y en a qui vont être contents ce matin de vivre à l'époque du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, l'adultère est puni par le divorce. Par le divorce. Parce que Jésus a admis clairement dans les évangiles la possibilité pour celui qui est victime dans un mariage d'un conjoint qui commet l'adultère, Jésus a clairement exprimé que le divorce est admissible dans ce cas-là. Et si dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de divorce, c'est simplement parce qu'il n'y avait plus de conjoint. Comprenez? Quand tu es veuf, tu n'as pas besoin de divorcer. Tu peux te remarier. Dieu haït vraiment ça. Dieu déteste vraiment ça. Et nous, on est là avec notre vision bestiale de l'être humain. La sexualité s'est rendue un loisir. C'est une game de Nintendo. On fait quoi? On joue au Nintendo ou on s'envoie en l'air? Ouais. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te tente aujourd'hui? Avec des amis, avec des amours, avec n'importe quoi. Il y a des noms pour ça, hein? Les amis qui servent à ça. Je ne suis pas en train de dire ce matin que dans tous les cas où il y a eu adultère, cela doit conduire au divorce, d'accord? C'est pas ça que je suis en train de dire. Et j'ai vu personnellement de mes yeux, j'ai connu des couples qui ont vécu vraiment des miracles extraordinaires de reconstruction après un adultère, d'accord? Et donc, c'est possible. C'est possible de la même manière que Dieu pardonne, que Dieu fait grâce, c'est possible dans un couple de le faire. Mais ce que je suis en train de dire ce matin, c'est que lorsque tu fais ça, ce n'est pas une erreur de parcours, ce n'est pas une erreur de distraction, ce n'est pas une folie passagère, c'est une bombe. C'est une bombe que tu es venu attacher au fondement de ton mariage. Tu es venu terroriser ton mariage en installant une bombe puis en faisant exploser ça au cœur même de son intimité. Et c'est ça l'adultère. Et ça demande vraiment la grâce de Dieu, une grâce incroyable de la part de Dieu pour reconstruire. Et il y a des belles histoires de reconstruction. Mais Jésus-Christ, clairement, admet le divorce dans ce cas-là. Pourquoi est-ce qu'il l'admet? Parce que tu viens de briser ton alliance, mon ami. Tu viens de briser ton alliance. Tu viens de te comporter comme un païen qui pense qu'on est juste le fruit de l'évolution, puis ça finit là. Puis qu'on n'est pas des êtres sacrés qui sont là pour refléter un être créateur. Tu as posé une bombe. Et certains d'entre vous, vous êtes terrifiés ce matin que je dise ça, parce que vous l'avez fait. Puis Dieu peut vous pardonner. Et par la grâce de Dieu, peut-être qu'il peut vous aider à reconstruire. Mais il faut reconnaître ces choses-là. Il ne faut pas les cacher comme si c'était une erreur de parcours, une folie passagère. Ce n'est pas le cas. De plus en plus de sites web font la promotion, même, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est sorti beaucoup dans les médias dans les dernières semaines, mais on trouve maintenant des sites web, je ne l'annoncerai pas juste parce que, pour vous donner l'idée d'aller le voir, là. Mais ce qui serait vraiment pathétique dans une église. Mais des sites web qui font la promotion justement des aventures pour les gens mariés. Et 1%, plus de 1% des Français sont abonnés à un site web. La France, plus de 1% des Français sont abonnés à un site web. C'est pas une agence de rencontre normale, vous comprenez? C'est une agence de rencontre pour gens mariés qui veulent vivre une aventure extra-conjugale. C'est littéralement ça. Et c'est de plus en plus populaire. Voici un témoignage qu'on trouve sur l'un de ces sites. Une personne a écrit « Ce site aurait dû être inventé plus tôt. Je ne me serais pas fait attraper par mon ex-femme. Je suis remarié, toujours intéressé par des aventures. J'aime l'idée de pouvoir faire des rencontres sans me faire pincer. » C'est l'époque, vous comprenez? C'est là qu'on vit. Je le sais, vous êtes sur le web à tous les jours. Eh boy, il faut s'accrocher au Seigneur, s'approcher de sa parole tous les jours. Passer plus de temps dans la parole qu'à naviguer sur le web sur des bêtises puis des âneries semblables. Un peu plus d'1% des Français sont membres de ce site-là. Ouais, disons qu'ils confirment beaucoup d'images de la France. Qu'est-ce que c'est l'adultère? Au sens le plus littéral, l'adultère, c'est avoir une relation sexuelle avec une autre personne que mon épouse ou mon époux. C'est une infidélité maritale, d'accord? Pour commettre un adultère, il faut être marié, ça va? T'es pas marié, il s'agit pas d'un adultère, je reviens là-dessus dans quelques instants, d'accord? Mais pour commettre un adultère, il faut être marié. On lit dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quelles sont les conséquences sur le couple? Tout à l'heure, j'ai dit, on attaque le fondement même de cette intimité. L'adultère brise le lien de confiance qu'il y a entre l'époux et l'épouse, attaque directement les vœux prononcés lors du mariage pour sceller cette union entre un homme et une femme. Et Dieu nous dit dans sa parole que l'intimité sexuelle entre un homme et une femme exprime la plus grande intimité possible. C'est pour ça que ce matin, j'insiste sur l'idée que nous ne sommes pas des bêtes. Ça t'a pas été donné, cette patente-là, pour tes loisirs. Tu comprends? On va-tu louer un film ou on s'envoie en l'air? Dieu nous dit dans sa parole que ça exprime la plus grande intimité qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Et en fait, Paul va jusqu'à dire que l'adultère a une dimension spirituelle profonde. Dans le même passage, un peu plus loin, il dit, « Fuyez l'impudicité. » Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et donc, lorsqu'un chrétien commet l'adultère, c'est une attaque directe à Dieu qu'il est en train de faire et à l'Esprit de Dieu qui est en lui. Parce que dans ce geste qui est le geste de la plus grande intimité qu'il peut y avoir entre deux êtres humains, l'Esprit est conduit à cet endroit-là. J'arrive même pas à le concevoir. Mais c'est ce que la parole de Dieu me dit. Maintenant, Jésus va plus loin, d'accord? Alors, lorsqu'on parle d'adultère, clairement, on parle d'une relation sexuelle physique à l'extérieur de mon mariage avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais comme Jésus l'a fait pour le meurtre, tout ça, Jésus va au cœur de la problématique. Jésus va au cœur du problème parce que l'Esprit-Saint habite en nous. Et donc, l'Esprit-Saint n'est pas seulement témoin de ce que je pourrais faire en allant vers une autre femme, mais l'Esprit-Saint est témoin de ce qui se passe en moi lorsque je vais vers une autre femme, dans mes pensées. Dans Matthieu 5, versets 27-28, voici ce qu'on lit. « Vous avez appris qu'il a été dit, c'est Jésus qui parle, « Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » A déjà commis avec elle un adultère dans son cœur. Et je ne suis pas en train d'induire ici que dès que tu as eu une pensée pour quelqu'un d'autre, Jésus est en train de dire que ça va conduire au divorce. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, d'accord? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais Jésus est en train d'adresser le problème du cœur. Là où l'adultère commence, là où je dois veiller, là où je me protège en réalité, lorsque je veille sur mon cœur. Ainsi, le septième commandement nous enseigne que l'adultère commence dans le cœur. Et donc, à partir du moment où dans mon cœur, dans mes pensées, je commence à convoiter, je commence à désirer, je commence à rêver d'être avec une autre femme, d'être avec un autre homme parce qu'il est beau, parce qu'il est belle, parce qu'il est charmant, parce qu'elle est charmante, puis je suis pas tout à fait satisfait dans mon mariage, j'en veux plus, j'en veux d'autres pour mon cœur parce que ça va pas. À partir de ce moment-là, mon cœur est adultère. Mon cœur est adultère. Et donc, ça veut dire que ça devient très large. Ça conduit Job, dans l'Ancien Testament, à dire ceci. « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge, sur une jeune fille en la désirant. » Job avait fait un pacte avec ses yeux pour dire « Non, elles seront pour moi comme des sœurs. » Et donc, ça ne veut pas dire que j'ai aucune relation amicale avec des sœurs. Il y a des sœurs ici, lorsqu'on s'écrit, c'est « Oui, ma petite sœur. » Parce que je veux être ce grand frère pour elle. Mais ce n'est pas ma meilleure amie, parce que j'en ai juste une. Cette amitié véritable, je la vis avec une seule femme, je suis marié. Et si tu veux être ami avec plein de gars et plein de filles, puis tu ne veux jamais faire de distinction, tu n'es pas appelé au mariage, c'est tout. C'est tout. C'est correct. C'est beau. Tu es appelé au célibat. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais j'ai une amie, une meilleure amie. C'est Esther. C'est mon épouse. Ainsi, lorsqu'on va dans cette définition-là, cette vision-là de l'adultère que Jésus apporte, ça veut dire que le flirt, lorsqu'on est marié, c'est de l'adultère. Certains d'entre vous, vous avez appris à avoir des rapports avec le sexe opposé, vous êtes toujours dans des relations de flirt. Tu le sais, quand une fille t'approche et tu dis, elle, tous ses rapports avec les hommes, c'est des rapports de séduction. Renonce à ça. Tant que tu n'auras pas renoncé à ça, tu n'es pas prêt à te marier, je te le garantis. Je te le garantis parce que le jour où tu te maries, il n'y a plus question. Et donc, si c'est le seul rapport que tu as avec l'autre sexe, c'est un rapport de séduction, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Je ne suis pas en train de dire d'être charmant, je suis en train de dire d'aller plus loin que ça. C'est un rapport de séduction. Je veux attirer l'autre, je veux attirer son regard, je veux qu'il y ait un désir, je veux me servir de ça pour la relation. Tu n'es pas prêt à te marier. Oublie ça, tu n'es pas prêt à te marier. Évidemment, toute forme de pornographie, quelle qu'elle soit, visuelle, littéraire, je pense ici à la littérature érotique qui est en développement, c'est en explosion depuis plusieurs années. 50 Shades of Grey, il y en a des montagnes chez Costco, littéralement des montagnes de cette affaire-là. 50 nuances de gris. Il s'appelle Christian Grey, le chrétien gris. C'est le nom du héros du film. Moi, je pense qu'il est noir, il n'est pas gris du tout. La trilogie a vendu plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, a été traduite dans 52 langues. C'est le record du livre de poche le plus rapidement vendu de tous les temps. Et c'est l'histoire d'aventures sexuelles avec toutes sortes de tendances qui sont justement inspirées d'une vision très animale de l'être humain. C'est pas pour vous, mesdames, cette affaire-là. C'est de la pornographie littéraire, c'est ça. Et peut-être que ça vous attire plus que des images sur Internet, mais c'est de la pornographie littéraire, c'est ça. Et vous allez importer ça dans votre mariage. Alors évidemment, de grâce, venez jamais me poser la question, oui, mais est-ce qu'on pourrait, tu sais, comme en couple, consommer des trucs pour s'attiser? Venez même pas me poser la question. Vous serez une pierre d'achoppement pour moi. Je n'ai jamais frappé un chrétien. Peut-être ce jour-là, je le ferai, d'accord? Non, mais il y en a ici qui font ça, je vous le dis. Ou qui pensent le faire. C'est de l'adultère. C'est de l'adultère que vous apportez dans votre mariage. Alors, toute ma vie de fantasme doit être vécue accompagnée de l'Esprit-Saint. Ça demande la grâce de Dieu parce qu'on est des pécheurs. Et moi, je ne suis pas né chrétien, les copains. Puis je ne suis pas devenu chrétien quand j'avais 7 ans. Je suis devenu chrétien quand j'étais pas mal plus vieux. J'ai roulé ma bosse. Ça prend la grâce de Dieu. Ça prend la grâce de Dieu. Et le sexe avant le mariage, puisque ce n'est pas l'adultère. Les Écritures appellent ça la fornication, c'est un péché. La sexualité a été donnée par Dieu pour le mariage. Et si vous ne croyez pas cela, puis vous dites, non, moi, il faut que je le vive avant, le jour où je vais être marié, je vais pouvoir continuer à le vivre. Ce n'est pas dit ça, mon ami. Ce n'est pas dit qu'une fois marié, vous allez avoir la santé. Peut-être qu'il va y avoir des problèmes de santé. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? Tu vas aller voir ailleurs? Tu vas aller voir ailleurs? Qu'est-ce que tu vas faire? Les Écritures appellent ça de la fornication. Et donc, si vous dites, mais regarde, moi, je vais vivre ma jeunesse avant, de toute façon, je ne suis pas marié, ce n'est pas un péché. De plus en plus, je l'entends, de plus en plus, je le vois. Les jeunes arrivent et ils disent, non, mais ce n'est pas un péché, c'est avant le mariage, c'est à l'extérieur du mariage. La Bible appelle ça de la fornication. C'est un péché. C'est un péché. Alors, la pureté pour celui qui est célibataire, c'est de me garder si un jour je suis appelé à me marier pour mon futur époux, ma future épouse. Hey, je sais que j'ai vraiment de l'air d'un rétrograde puis d'un vieux quétaine. Suivez les autres modèles si vous voulez. Vous n'allez rien construire de bon, je peux vous le dire. La pureté pour le célibataire, c'est de se garder. De se garder pour glorifier Dieu. La pureté dans le mariage, c'est de se garder pour mon conjoint, pour ma conjointe. Pour mon époux, pour mon épouse. C'est ça la pureté. Et donc, la sexualité avant le mariage, c'est inadmissible dans vos fréquentations. Parce qu'il faut l'essayer. C'est un péché que Dieu condamne vivement, vivement. Je me garde pour mon épouse, pour mon époux. Parce que je veux me donner, parce que je veux me donner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et je vais terminer avec ça ce matin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si, finalement, avec la définition de Jésus, on est tous coupables d'avoir convoité un homme, une femme à l'extérieur de notre mariage? Qu'est-ce qu'on fait si on lutte avec la pornographie? Puis notre vision de la sexualité, c'est que c'est juste un espèce de loisir. Puis de faire cadrer ça dans une notion sainte, ça voudrait dire tellement d'abstinence que j'arrive même pas à le concevoir. Qu'est-ce qu'on fait si on a commis l'adultère physiquement et qu'on est marié? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Tu nous as dit ce matin, Yannick, que c'était une bombe qu'on avait mise dans notre mariage, au fondement même de notre mariage. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec nous? La première chose à faire, c'est de crier à Dieu. C'est de vous tourner vers Dieu. C'est de vous tourner vers Dieu parce qu'il y a en Dieu la grâce, le pardon nécessaire pour tous les pécheurs. La semaine dernière, on a dit que Dieu peut pardonner les meurtriers. Dieu peut pardonner les adultères. Un jour, une femme a été conduite auprès de Jésus par une foule d'hommes qui l'avaient soi-disant surprise en adultère. Probablement que son histoire n'était pas belle à cette femme-là. Effectivement, le problème, c'est qu'il manquait un partenaire, vous comprenez? Adultère, ça se fait à deux. Mais ils ont trouvé cette femme-là sans jamais avoir mis la main sur son partenaire. Ils l'ont conduit à Jésus pour voir ce que Jésus allait faire comme traitement, cherchant toujours une opportunité pour le piéger. Et il dit, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette femme-là, cette femme adultère? Mais Jésus est allé directement au cœur de chaque individu qui était là. Puis il a dit, très bien, que celui ici d'entre vous, messieurs, celui d'entre vous qui n'a pas péché, commence la lapidation. Je vous ai dit, peine de mort, que celui d'entre vous qui n'a pas péché commence la lapidation. Et tous les hommes qui étaient des hommes adultères ont commencé à quitter cette place-là un à un. Lorsque Jésus s'est retrouvé seul avec cette femme-là, il lui a dit, « Où sont tes accusateurs? » Elle a dit, « Ils ne sont plus là. » Tout à l'heure, lorsque j'ai dit, « Qu'est-ce qu'on fait si on est couvert de péché? » Si on est rongé de l'intérieur par notre culpabilité d'avoir convoité, d'avoir consommé, d'avoir péché, qu'est-ce qu'on fait? On crie à Dieu, on va vers Jésus. Parce que Jésus, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Et donc, si tu es chargé de péché sur le plan sexuel, si ta vie sexuelle, c'est n'importe quoi, si t'as trompé ton épouse, si t'as trompé ton époux, que ce soit sur le web ou que ce soit physiquement, la première chose à faire, c'est d'aller vers celui qui veut t'accorder sa grâce. D'aller à cet endroit où la foule est partie et t'es seul avec lui, avec Jésus-Christ, dans la prière, seul. Et lui dire, « Seigneur, peux-tu dans ta grâce venir me dire ces paroles-là à l'oreille? J'ai besoin de les sentir en moi. » Et Dieu, dans sa grâce, par la puissance de son Esprit Saint, va t'accorder son pardon et va te dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » C'est la première chose à faire. Me repentir et crier à Dieu pour qu'il me pardonne. Et la deuxième chose à faire, par la grâce de Dieu, c'est chercher à reconstruire maintenant. Une fois que je me suis repenti, je suis revenu à Dieu, il y a quelque chose qui s'est clarifié dans mon esprit. Dieu est redevenu mon Dieu. Ce n'est pas la sexualité, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas ce que j'ai cherché ailleurs qui est mon Dieu, c'est Dieu qui est mon Dieu. Vous vous rappelez, on est dans les 10 commandements. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, premièrement, aucun autre ». Alors, je vais chercher dans mon cœur, par ma repentance, à honorer ce premier commandement-là. Je me place devant Dieu puis je dis, c'est toi qui conduis maintenant. C'est toi qui conduis par ta grâce. J'espère qu'il va y avoir de la restauration dans mon couple. J'espère que tu vas me transformer afin que j'abandonne la pornographie. J'espère que tu vas changer ma vision de la sexualité, que je vais pouvoir me préparer pour de vrai pour le mariage. J'espère tout ça, c'est devant toi que je me place. C'est toi, mon Dieu. J'accepte ton pardon, je veux te suivre maintenant. Et je vais chercher maintenant, dans cette puissance de l'Évangile, la grâce pour marcher dans la sainteté et dans la grâce. Alors, je vais être très concret avec vous ce matin, d'accord? T'es célibataire, t'es un gars. T'espères te marier un jour. Tu luttes avec la pornographie. Règle ça, ça presse, bonhomme. Tant que ça ne sera pas réglé, tu n'es pas prêt à te marier. Non, mais tu te dis, une fois marié, il n'y en aura plus de problème, tout va être réglé. Tu penses que ça marche demain? Va t'acheter une palette de chocolat, fais-moi croire que tu ne veux pas toutes les autres. Va t'acheter un char, tu sais, ton premier char que tu attends, enfin mon premier char. Puis fais-moi croire après que lorsque tu vas voir une Lamborghini passer, tu n'auras pas le goût de l'avoir. Mais c'est ça qui va se passer quand tu vas être marié. Parce que pendant toute ta jeunesse, tu es incontinent, incapable de te maîtriser. Tout ce que tu veux, c'est une autre femme, une autre femme, une autre femme, une autre à voir, une autre à voir, une autre à voir, une autre à voir. Bien, une fois que tu vas l'avoir vue, celle que tu vas marier, qu'est-ce qui va se passer? Une autre à voir, une autre à voir, une autre à voir, une autre à voir. Ah, ça va peut-être prendre quelques semaines, quelques mois, mais ça va revenir. Fait que les gars, vous êtes célibataires, vous luttez déjà avec ça. Cherchez des bons conseillers, confessez ça au Seigneur, réglez ça avant de vous marier, ça presse. Puis plus vous tardez, plus votre cerveau est en train de se baser complètement. C'est une pandémie aux États-Unis, c'est un problème qui est aussi sérieux que la toxicomanie, d'accord? Parce que la réalité, il y a de plus en plus d'études qui sortent, la pornographie est une dépendance qui crée des sentiers dans ton cerveau. Ça crée des réflexes, des habitudes. Ça va pas, je suis angoissé, la journée est difficile. Oups, je m'en vais là. Journée frustrante, il y a quelqu'un qui me contrarie. Oups, je m'en vais là. Mais mon homme, dans le mariage, tu vas en avoir des contrariétés. T'as le garanti. Qu'est-ce que tu vas faire? Oups, je m'en vais là. C'est C'est ça que tu vas faire. Par la grâce de Dieu, crie à Dieu. Cherche de l'aide. Commence à reconstruire ton cerveau comme il faut, éclairé par la parole de Dieu. Prépare-toi à te garder pour ton épouse. Puis donne-toi du temps pour savoir que c'est réglé. Fait que tu dis, moi, ça presse, je veux me marier, mais comment c'est tes devoirs, bonhomme? Les filles, vous êtes de plus en plus accro à ça de la même manière. De plus en plus. Quand c'est pas ça, ça va être une autre forme de ça qui est plus romantique, qui est plus, je m'en vais dans l'image de ça, mais il y a de plus en plus de femmes productrices de pornographie aussi, qui va être un peu différente. Mais c'est encore tout ça que vous allez chercher là-dedans. Vous avez du ménage à faire dans vos têtes pour avoir une vision de la sexualité qui est telle que les Écritures l'enseignent. Vous préparez pour ça, telle que les Écritures l'enseignent. Et s'il y a quelque part dans votre vision de la sexualité, vous avez adopté une vision qui est très, très contemporaine, très moderne, c'est une espèce de loisir, cette patente-là. Il y a de plus en plus de filles qui sont dépendantes de la sexualité. Vous avez du travail à faire, les filles aussi, je vous le garantis. Et avoir une vision saine pour dire, moi, dans mon mariage, j'admettrai pas une vision de la sexualité qui est nourrie par le monde, avec des pratiques qui sont tout simplement immorales. Je ne veux pas faire ça. Maintenant, les couples mariés. Vous avez voulu vous marier, il faut que vous l'assumiez. Je vais vous donner un devoir. J'ai averti les anciens que j'allais vous donner un devoir ce matin. Je sais que je suis plus long, je suis désolé. J'ai averti les anciens que j'allais vous donner un devoir parce que j'ai dit aux anciens, il faut être prêt pour ça. Je vais vous donner un devoir puis je vais vous donner 6 mois pour le faire, votre devoir. Tous les couples mariés. J'ai beaucoup aimé l'approche de Mark Driscoll sur ça avec son église. Si votre vie sexuelle, si votre vie amoureuse dans votre mariage comporte un adultère, si vous vous nourrissez de pornographie, s'il y a de la débauche dans votre mariage, commencez à prier. Commencez à crier à Dieu. Commencez à demander à Dieu, quand est-ce que je vais m'asseoir avec mon épouse, avec mon époux, pour confesser. Pour confesser mon péché. Parce que vous ne pouvez pas construire votre mariage avec une bombe qui est là. Vous ne pouvez pas le faire. Et vous allez devoir vous en remettre à la grâce de Dieu. Commencez à prier pour que Dieu vous montre quand vous allez faire ça. Chacun de votre côté, bookez-vous une date. Je vous donne pas ça à la légère. Hein. Je n'ai pas une histoire simple personnellement. J'ai une histoire vraiment tout croche. Il a fallu que je sois très franc avec Esther. Je continue à l'être. Bookez-vous une date, dans quelques mois, vous allez vous asseoir ensemble, demander à des amis de confiance de prier pour vous pour cette rencontre-là. Soyez francs, transparents, confessez votre péché. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les détails, ce n'est pas édifiant, mais reconnaissez votre péché. N'essayez pas de faire porter le blâme sur l'autre. D'aucune manière, il est responsable de ça. Même si ce n'était pas un bon époux ou une bonne épouse, il n'est pas responsable de ça. C'est à nous de nous maîtriser. Écoutez, laissez la personne réagir. Ça peut prendre des semaines, des mois. Cherchez de l'aide. Venez chercher de l'aide. Venez voir les anciens. Venez nous voir. Si tu luttes avec la pornographie, mon homme, puis tu es marié, tu vas devoir le confesser à un moment, puis après ça, tu vas devoir t'entourer. Moi, personnellement, j'envoie des rapports à tous les mois à deux gars. Et je leur dis, ça va, tout est beau, tout est pur, mes yeux sont purs, je marche droit. De temps en temps, Esther a dit, ça va bien. C'est parfait, c'est pas parfait. Je rends des comptes, je me repens. Je suis transparent avec vous. On va passer un temps de louange ce matin et je m'attends à ce qu'il soit un petit peu particulier. Hein? Particulier. Frères et sœurs, des fois on regarde la société puis on se dit mais où est-ce qu'on s'en va? Comment est-ce qu'on va faire comme chrétien pour vivre dans ce monde-là, élever nos enfants dans ce monde-là? Je crois encore aujourd'hui, alors que j'ai deux adolescents, alors qu'on va fêter notre 22e anniversaire de mariage cette année, je crois encore aujourd'hui que plus les ténèbres sont ténèbres, plus c'est facile de briller. Ça prend juste une petite lumière. Et ça, c'est la vérité, vous comprenez? Et donc, investir dans votre mariage en vous gardant pour votre époux, pour votre épouse, vous préparer au mariage en poursuivant cette pureté-là, ça va être un témoignage extraordinaire pour vos enfants, pour vos proches. Combien de fois mes enfants sont arrivés en disant, « Papa, maman, vous allez être ensemble toute votre vie? » Par la grâce de Dieu, on va être ensemble toute notre vie. Mes enfants rentrent à la maison et rentrent dans un foyer qui est pratiquement unique dans leur entourage. C'est par la grâce de Dieu, ça. Vous comprenez? Et donc, je crois profondément que Dieu prend des êtres brisés. Et dans sa grâce, il vient nous visiter. Dieu prend des êtres adultères sur le plan spirituel. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour des adultères. Et donc, Dieu veut faire grâce, il veut vous pardonner et il veut vous conduire dans la sainteté. Et c'est possible de le faire. Baissons pas nos standards. Baissons pas nos standards parce que le défi semble grand. Les gars, vous êtes jeunes, c'est possible de marcher dans la pureté. Les filles aussi, c'est possible de le faire. Et c'est possible d'honorer le mariage parce que le mariage a un sens. C'est une des plus belles idées de Dieu pour faire connaître l'amour de Dieu et pour expérimenter l'amour de Dieu. Il demande d'être sanctifié, d'être gardé pour la gloire de Dieu. On va prier ensemble. Ô Seigneur Jésus, ce matin, on a adressé un sujet lourd, Seigneur, difficile. Il y a des gens qui ont le cœur profondément troublé. Il y a des gens qui n'en reviennent pas d'avoir entendu ce que j'ai dit ce matin. Il y a des gens qui ont peur ce matin, Jésus. Terrifiés. Terrifiés de venir dans la lumière. Et Seigneur, ils ont besoin de ta grâce ce matin. Ils ont besoin que tu viennes les rencontrer dans ce temps de louange, que tu viennes, Seigneur, leur dire que tu aimes les pécheurs. Que tu aimes faire grâce à celui qui vient à toi. Que tu veux consoler, que tu veux dire à celui qui a péché, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Seigneur, il y a des jeunes gens qui ont été contaminés par une vision très animale de la sexualité, de l'amour, et qui ne rêvent plus de se garder pour un époux, une épouse, Seigneur. Et ils ont besoin que tu viennes transformer leurs pensées. Certains d'entre eux ont besoin que tu viennes les rencontrer au pied de la croix pour reconnaître qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'être guidés par toi. Et c'est dans leur profonde incapacité à marcher dans la sainteté qu'ils vont découvrir l'évangile de la grâce. Leur besoin d'être pardonnés, d'entendre dans leur oreille par ton esprit, je t'aime, je te pardonne, je fais de toi mon enfant aujourd'hui. Parce que sur la croix, je suis mort pour tes péchés. Seigneur Jésus, viens sauve ce matin. Celui qui marche sans toi depuis toujours, viens Seigneur, donne de la repentance, ce cadeau divin lorsque nos cœurs sont brisés par le péché. Viens, Seigneur, et fais renaître l'espoir. L'espoir de marcher dans la lumière, de marcher dans la vérité humblement en te tenant par la main et de construire ou de reconstruire nos couples dans la sainteté et dans la grâce. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.